d'Aponte, à la fois ecclésial, libertin et littérateur, je crois que je l'ai rencontré. Oui, continuez. Bon, et vous en savez comme ça beaucoup. Très long. Philippe Solers.
Je crois que ce qu'il faut dire de D'Aponte, c'est cette extraordinaire aventure qu'il a avec la langue et les livres. Il dit de lui-même, il a à peine fait quelques petites études, très mauvaises d'ailleurs, avec un instituteur, avec lequel il a eu des rapports très mauvais. Ensuite, grâce à cet évêque qui lui donne son nom, il rentre au séminaire, et là il se fait barbouiller de latin, ce qui fait qu'il est doué, mais qu'il ne connaît pas un mot de la langue parlée, c'est-à-dire de l'italien. Et c'est grâce à un abbé qui s'appelle Cagliari, qui est un jeune prêtre à l'imagination, dit-il, ardente et poétique, et récemment sorti du collège de Padoue, qui l'a séduit. Et là, on a, pour la première fois, et très tôt donc, l'apparition des noms d'écrivains italiens qui vont l'accompagner toute sa vie, sur lesquels il va sans cesse parier au cours de son existence, qui va l'amener jusqu'à New York, et c'est Dante, Pétrarque. La lecture de Dante et de Pétrarque était aussi familière à cet abbé qui va lui communiquer donc sa passion que la lecture d'Horace et de Virgile. Et c'est étonnant, vous savez, parce que, après toutes ces histoires, un bouleversement complet de l'Italie et de l'Europe, voyons tout de suite Lorenzo D'Aponte, librettiste de Mozart, arrivé à New York en 1819. Et regardez ce qu'il disait, c'est tellement touchant. Des rives de l'Hudson, où se mirent la populeuse New York, je fis transporter sans délai dans une petite barque mon bagage, qui se composait de quelques vêtements, 140 volumes des classiques et quelques autres livres. Il a à peine de quoi se vêtir et il a tous ses livres. Cette passion du livre, je me demande s'il ne faut pas la chercher dans ses origines dissimulées, fort closes, oubliées, c'est-à-dire dans ses origines juives. Comme si cet hébreu latin, oublié, dissimulé, allait être transféré d'une façon passionnelle sur, non pas le latin, mais sur les grands écrivains italiens, c'est-à-dire Dante, Pétrarque, l'Arioste et le Tasse. Et nous allons retrouver ceci d'une façon extraordinairement importante lorsqu'il va écrire à Vienne le Don Juan de Mozart, en lisant le soir, dans des circonstances que nous aurons à définir qui sont inouïes, oui, parce qu'on va voir comment il va s'organiser, en lisant justement le Dante, pour s'inspirer de Dante, pour écrire le Don Juan de Mozart. On a donc ce petit juif converti au catholicisme, portant le nom d'un évêque, qui va devenir le librettiste des trois plus grands opéras de Mozart, c'est-à-dire les Noces de Figaro, le Don Juan et Così fan tutte, ou la Scuola degli Amanti, l'école des amants. Et qui ensuite va se retrouver à la fin de sa vie aux États-Unis d'Amérique, à New York, avec toujours la même passion, comment faire connaître l'italien, comment imposer l'italien dans un monde qui n'est pas, à proprement parler, fait pour le recevoir, puisque là, la domination est déjà anglo-saxonne et allemande, au fond. Nous allons suivre cette fabuleuse histoire qui part des faubourgs de Venise pour se finir à New York.
Je suis frappé du fait que, pour cet amoureux de la langue italienne, il s'établit à Venise, qui est un bel italien, mais pas véritablement l'italien académique. L'italien académique, à son époque, c'est le toscan. Mm-hmm. D'ailleurs, les grands poètes vénitiens ont l'intention de plutôt réintroduire les règles et le phonie et la langue toscane dans, dans l'italien. Mm-hmm. Et lui, il s'arrête à Venise. Donc, il y a quelque chose qui est encore peut-être un peu plus fort que la langue. Alors, c'est...
Ben, vous savez, Venise, alors, il faut dire où on est, quelle est la situation extrêmement particulière de Venise en Italie, ou dans le monde même.
Philippe Sellers.
Venise, c'est, comme il le dira lui-même, la plus artiste des villes d'Italie. Cette tradition...
Plus que Florence, plus que...
C'est ce qu'il pense.
Plus que Sienne.
Oui, ça c'est un débat qui court à travers toute l'histoire italienne. Les pôles d'attraction sont, disons, Florence, Rome et Venise. Il y a Naples aussi. Pour s'en tenir simplement à la peinture ou à la musique, il est bien clair que Venise joue un rôle d'incitation, de création tout à fait originale. Quand on est à Rome, on a des difficultés avec la papauté sur certains plans. Par exemple, sur le plan du théâtre. Les opéras.
Ou de la représentation plastique.
Voilà. On sait très bien que, par exemple, pour être très, très schématique, la naissance de la couleur dans la peinture, c'est-à-dire de la chair, de ce qu'elle désigne comme a priori de coloris, qu'on va retrouver évidemment chez Titien, poussé au plus haut niveau, c'est la liberté d'entreprendre pour un artiste. Dans ce New York de l'époque, qu'est Venise, capitale des échanges mondiaux, la liberté d'entreprendre et d'inventer un art plus sensuel, plus libre, qui soit moins soumis à la surveillance ecclésiastique, c'est Venise. Pour cela, l'épisode central, c'est Titien et l'Aretin. L'Aretin quitte Rome en 1527 après le sac de Rome par les armées, notamment très luthériennes, qui font inscrire leurs petits graffitis dans les stances de Raphaël, n'est-ce pas ? On voit encore le nom de Luther inscrit là, n'est-ce pas ? Rome, c'était la ville du démoniaque pour la réforme luthérienne. C'était la ville des indulgences, de la licence, le scandale. Alors, vous voyez, si Rome même était la ville du scandale pour Luther, alors à quel point, n'est-ce pas, Venise aurait été la ville alors de la prostitution intégrale. Eh bien, on voit très bien émerger petit à petit à Venise, malgré un gouvernement très sourcilleux. Il y a l'Inquisition, il y a la police, il y a le Conseil des Dix, il y a le tribunal, nous allons voir Da Ponte bientôt, obligé de paraître devant un tribunal parce qu'il a fait une composition littéraire qui sent le soufre. Eh bien, Venise, c'est là quand même où un artiste au monde, à l'époque, est certainement le plus libre. Or, ce Da Ponte se sent, par nature, par inclination, par goût, une destinée artistique. Il en prend la certitude en lui-même. Comme il le dit à plusieurs reprises, ça ne s'apprend pas. On va se faufiler à travers les langues, les systèmes de communication de l'époque et de pouvoir, mais on va affirmer cette espèce de don, d'intuition, de grâce que l'on sent en soi.
Il y a une chose qui me frappe un peu dans les villes que traverse Conte, et la première, la plus importante, Venise, dans laquelle il n'arrive que relativement tard, à 24 ans, ensuite Vienne, toutes ces villes sont liées au thème de la décadence. Alors, par exemple, là j'ai un Baedeker, un vieux Baedeker sous les yeux, et on raconte l'histoire de Venise. C'est alors, donc nous sommes là en début du 18e siècle, 1715, donc 60 ans, 70 ans avant l'arrivée d'Aponte. C'est alors que la République cessa de jouer un rôle dans l'histoire, elle ne conserva que ses possessions du nord de l'Italie, dont Ceneda, ville natale de d'Aponte, entre parenthèses, resta neutre dans les grandes guerres et vit décroître de plus en plus sa puissance. Alors, donc là, on a le thème de la décadence de la ville.
Oui, et surtout c'est un thème dont je vais m'efforcer de démontrer qu'il est pleinement idéologique et qu'il est écrit dans une perspective de propagande.
Alors effectivement, il faudra que vous démontriez ça, parce que Vienne est également attachée à ce thème de la décadence, dès la mort de Marie-Thérèse, laquelle survient pendant la jeunesse de d'Aponte, on en parle aussi. Et on peut aussi dire que New York est une ville de décadence, ça va beaucoup d'égards.
Tout est en décadence, si l'on veut. Oui.
Bien. Comment ce personnage vivace, qui n'a que le désir de vivre et de jouir de la vie, s'attache-t-il à ces villes de décadence? Parce que ce ne sont pas des vraies villes de décadence.
J'allais vous le dire, ce n'est pas une ville de décadence, c'est au contraire.
Non, mais décadence, c'est simplement parce qu'il y a beaucoup moins de bons musiciens à cette époque-là que, par exemple, dans l'époque antérieure. Vivaldi, que je crois vous aimez beaucoup, est sensiblement un peu antérieur. Les grands musiciens sont d'avant, les grands peintres sont d'avant.
Eh bien, c'est comme aujourd'hui à Paris. Les grands écrivains datent du siècle de Louis XIV, il y en a encore quelques-uns au XVIIIe. Et les grands peintres français, en tout cas, ils sont évidemment, et tout le monde se les arrache jusqu'au Japon, ils sont du XIXe siècle, qui connaît une floraison ahurissante. Bon, il y en a encore en France avec Picasso et Matisse, mais enfin, il y en a moins. Et alors aujourd'hui, si vous habitez Paris, vous êtes dans une ville qui peut légitimement se prendre comme une ville de décadence, si vous la prenez comme ça, et qui en même temps, pour l'esprit énergique individuel, de son triomphe idéal, s'accrochant à la langue et aux livres, persuadé que ça ne peut pas mourir tellement la tradition est ancienne, magistrale, merveilleuse, etc. C'est comme moi, si je décidais que je vais sauver le français, que je vais aller à Tokyo, ou encore plus loin, là où il y a
besoin de français. Vous serez bien vu.
Allons là où il y aura le moins de français possible.
En Nouvelle-Zélande.
On peut aller à New York, vous savez, il y a très peu de français à New York, et il y a beaucoup plus d'Italiens à cause de la mafia. Oui, hein. On peut parler plus facilement italien à New York que français. Parler français à New York dans la rue, c'est assez compliqué. Et donc, voilà, et que malgré tout, ça ne peut pas mourir. Je crois que d'Aponte vit avec cet idéal de la grande Venise. Et c'est lui qui va probablement non pas le communiquer à Mozart, qui connaît Venise, lorsqu'ils sont tous les deux à Vienne. Et Mozart est déjà passé.
Oui, il est passé.
Mais enfin, l'étincelle qui nous donne ce petit juif converti qui porte le nom d'un évêque, avec sa dévotion fanatique pour les grands écrivains classiques de l'italien. Dante, Pétrarque, l'Arioste, le Tasse. Cette espèce de décadence de l'Église catholique, en effet, l'avenir paraît être aux grandes...
Aux Lumières
grande déchristianisation en cours. Mais non, mais pas seulement aux Lumières, mais très vite. Et ça, d'Aponte pourra le suivre, depuis Londres ou depuis New York. Il pourra suivre toute l'épopée de la terreur d'abord, ensuite de la Napoléonie. N'oubliez pas le ressentiment extraordinaire de Napoléon, qui décide au fond qu'il est là pour sanctionner la République. L'admirable République sérénissime de Venise, qui depuis 4 ou 5 siècles a fondé le gouvernement républicain, parce que nous sommes tout jeunes en République, là, nous n'avons pas encore dit, nous balbutions.
Français que nous sommes, vous voulez dire.
Mais oui, il n'y a pas beaucoup de... Il y a eu une République, mais souvent interrompue par des empires, oui. Ou alors par des...
Puis là, 2 siècles.
Oui, mais enfin, oui, ou alors par Vichy, ce n'est pas tellement... Non, on retourne en arrière. Avec beaucoup, beaucoup de pertes sur l'idée républicaine, à laquelle d'ailleurs personne ne semble croire, ce qui est fort regrettable. Bon. Mais pour ce qui est de Venise, c'était l'emblème de ce qu'il pouvait accuser. Hein, les grandes épopées impériales. Napoléon est obsédé contre Venise. Il va la livrer aux Autrichiens pour pas grand-chose, après l'avoir... qui ont toujours tendance à faire croire que avec eux commence l'histoire, ou finit l'histoire même. Donc si ça finit avec eux, une autre commence. Eh bien non, Venise tient le coup. Alors, le thème de la décadence de Venise
court. Enfin, au 19e siècle, Venise...
Le thème de la décadence de Venise court tout le long du XIXe siècle, la mort à Venise, Venise s'effondre, Venise est pleine de miasmes décadents, etc. Tout le monde va y faire, en quelque sorte, son dernier voyage sur le pont des soupirs, vers un Orient qui s'effondre et le ciel tombe dans l'eau et les corps pourrissent et on assiste là. Bon, c'est cette haine, la vraie Athènes qu'a été Venise, ben, c'est-à-dire cette espèce d'impression que ça ne peut que mourir, que mourir, que mourir. Ce désir de mort porté sur Venise mériterait à soi seul un livre psychanalytique pour beaucoup plus important que les propos que nous pouvons tenir. Je crois qu'aujourd'hui, enfin, au moins depuis au moins 20 ou 30 ans, Venise, au contraire, est dans un état de renaissance, d'euphorie, de dynamisation constante, mais guettée par d'autres ambitions, par d'autres ressentiments.
Et guettée par d'autres périls, quand même, parce que les périls, comme on dit, écologistes,
voilà,
ne
voilà,
sont
voilà,
pas
mais nous sommes dans, inventés. Nous sommes dans une autre époque. Mais cela dit, à l'opéra de la Fenice, à Venise, qui est un sublime, sublime petite bonbonnière qui peut traverser l'espace et le temps, vous pouvez quand même aujourd'hui écouter Les Noces de Figaro, Don Juan ou Così fan tutte de M. Mozart, écrit probablement beaucoup plus en collaboration que ne veut l'avouer Da Ponte, à une époque où finalement ça pouvait passer pour être des opéras comme les autres.
Les trois mouvements du concerto en mi majeur de Vivaldi, l'Amoroso, étaient interprétés par le English Consort, direction Trevor Pinnock. Nous retrouvons naturellement dimanche prochain Philippe Da Ponte qui nous parlera de Lorenzo da Solers.